L'article que Rémy de Gourmont publie en 1899 sous le titre de « Philosophie du cliché », avant de le reprendre dans son esthétique de la langue française, vaut presque seul à son auteur le titre de « grand inquisiteur » que lui décerne Jean Paulhan dans ses « Fleurs de Tarbes », inquisiteur de ce régime de terreur dans les lettres qui répand le soupçon partout et fait que, je cite Paulhan, « le poète ne s'est pas plutôt privé du ciel étoilé qu'il lui faut douter du ciel et de l'étoile, assez capable de le rappeler et qui tienne déjà de lui je ne sais quel reflet déplaisant et fade. » Cet article sur le cliché, qui sera donc mon point de départ, me paraît être l'un des plus intéressants pivots permettant de passer du 19e au 20e siècle. En effet, en essayant de penser ce qui est l'une des plus grandes inquiétudes littéraires du siècle qui s'achève, il suffit de rappeler quel moteur cette inquiétude a représenté pour une œuvre comme celle de Flaubert, en essayant d'expliquer le cliché, Gourmont sollicite, comme il le fait très souvent, les sciences humaines, alors naissantes, et ce faisant, il finit, à défaut de le résoudre, par transformer fondamentalement le problème, mais sans prendre, me semble-t-il, toute la mesure de cette transformation. Ce qui revient à dire qu'il ouvre une porte qu'il ne franchit pas, ou plus concrètement qu'il lègue à la génération suivante, celle qui s'affirme vers 1910 et qui le lit avec le plus grand intérêt, un problème auquel elle tentera d'apporter des solutions formelles. À travers la question de l'image poétique, que Gourmont lui-même pose comme l'envers poétique de celle du cliché, à travers son évolution, apparaissent donc des manières de concevoir l'articulation entre individuel et collectif dans l'écriture, dans la peinture aussi, puisqu'on trouve aussi, dans les réflexions des peintres autour du cubisme, des reprises ou des relances du problème gourmontien de la place du commun, un problème qui engage en définitive quelque chose comme une fonction sociale de l'art et de la poésie. À cet égard, on se souvient que Gourmont, dans sa préface au Livre des masques, avait défini le symbolisme d'une manière volontairement lâche comme, je cite, « expression de l'individualisme dans l'art ». Il avait affirmé que la seule excuse d'écrire était de dévoiler aux autres la sorte de monde qui se mire en son miroir individuel, et partant, il avait dénoncé comme crime capital le conformisme, l'imitativité, la soumission aux règles et aux enseignements. Dans ce cadre, on comprend que le cliché défini comme une phrase toute faite, soit comme une image figée, puisque pour Gourmont, tout groupe de mots détermine nécessairement une image, laquelle est dans ce cas mise en circulation comme un bloc infrangible, c'est l'expression qu'utilise Gourmont. On comprend donc que le cliché soit considéré comme un danger particulièrement sournois, dans la mesure où adopter le cliché consiste à se soumettre au premier venu ou à tout le monde, et risque dès lors de passer inaperçu même de celui qui se soumet. Le cliché apparaît en tout cas comme une scorie qui vient troubler le miroir individuel et empêcher ce qui, dans l'article sur le cliché, se formule en termes déjà plus nietzschéens, à savoir la transposition de la vie en écriture ou la représentation presque directe d'un fragment de vie, transposition ou représentation qui, pour être vraie, c'est-à-dire pleinement individuelle, devrait s'ancrer dans la sensation, dans le corps. Gourmont rejoint d'ailleurs également Nietzsche dans la conception d'une origine métaphorique de l'ensemble du langage et par conséquent dans la fonction sociale qui se dégage de l'idée même d'une usure effaçant cette origine. L'écrivain, le poète, car en littérature il n'y a que des poèmes, écrit Gourmont, ne mérite finalement ce nom que s'il participe au renouvellement des images et donc de la langue qu'il a reçue en partage. Malgré tout, l'articulation entre l'individuel et le social demeure difficile. Et à vrai dire, c'est cette difficulté qui fait l'intérêt de l'article. Je dirais même que c'est l'échec de Gourmont à proposer un point de vue cohérent, parce que cet échec est révélateur de changements en train de s'opérer au-delà de Gourmont dans les différents champs de réflexion qu'il tente de faire coïncider. Et en premier lieu, bien sûr, celui de la réflexion poétique. Car si Gourmont essaye de penser le cliché avec l'appui des sciences humaines, il le fait, bien évidemment avec pour horizon la défense d'une certaine idée de la valeur d'une écriture. Il en résulte de multiples tensions qui finissent par laisser en balance deux points de vue très différents que ne parvient pas à réconcilier la pirouette finale sur laquelle je m'arrêterai tout à l'heure. Dans les premières pages de l'article, en effet, la condamnation du cliché conduit Gourmont à traiter cette faculté singulière de penser par cliché comme une pathologie, en cherchant la caution de la psychologie de Théodule Ribot et de ses maladies de la mémoire. Une psychologie que l'écrivain n'hésite pourtant pas à tordre pour les besoins de sa démonstration, glissant par exemple de la périphrase au cliché quand il s'agit de récupérer l'idée que les relations sont plus intimement liées à la pensée que les désignations, et le fait qu'un amnésique remplacera volontiers le nom par une périphrase. Donc là on glisse de la périphrase au cliché chez Gourmont. Un Gourmont inventant une mémoire spécifique, celle des groupes de mots, qu'il restreint de manière symptomatique au domaine du style et de l'écriture, et oubliant finalement le jeu complexe des relations, des connexions, des associations dynamiques que met en évidence Ribot, pour revenir à la conception d'une mémoire comme collection de petits négatifs, une conception qui était pourtant écartée de manière explicite par le psychologue. C'est que Gourmont a besoin d'affirmer un lien direct avec la sensation pour sauver l'expression littéraire d'une médiation par le social. Or, la conception de la mémoire que propose Ribot avec son autonomie relative convient somme toute assez mal aux exigences de son propos. C'est pourquoi on le voit revenir, sans la nommer, vers la psychologie sensationniste d'un Hippolyte Taine, vers l'idée d'un esprit comme polypier d'image, c'est l'expression qu'utilise Taine, soit la conception qui domine finalement le dernier tiers du siècle et qui empêche de penser le cliché autrement que comme une scorie, comme une image morte parce qu'elle n'est plus reliée à la sensation. Progressivement, pourtant, on voit la réflexion changer de plan pour aborder la question non plus sous l'angle de la représentation, mais sous celui de la communication ou de l'échange. Et chercher de ce fait l'éclairage non plus d'une psychologie pathologique, mais d'une psychologie sociale. C'est qu'au fil des pages, il a fallu admettre d'abord que des plumes influentes avaient opéré sans apporter d'images nouvelles, je cite, avec des phrases toutes faites, pâles, froides, à l'exemple de Kant, mais hors de l'art dans des œuvres abstraites ou dans celles où l'auteur doit s'astreindre à l'exactitude historique. Il a fallu envisager ensuite que tout un chacun parle ou même écrit quotidiennement, en usant d'expressions conventionnelles, de phrases plus ou moins usées, de clichés, dans le sens plus neutre que prend le terme pour l'imprimeur ou pour le photographe. Ainsi, le cliché en vient à se confondre avec l'ensemble en circulation des phrases ou des images nécessairement communes. La dimension problématique d'expression reproduite et identifiable comme telle s'estompe devant la prise en compte des besoins et des mécanismes de la transmission interpersonnelle dont le langage est le principal véhicule. Une prise en compte qui s'impose en même temps que s'affirme la présence de Nietzsche et peut-être surtout celle de Gabriel Tard, le philosophe ou sociologue, auteur, comme l'écrira Gourmont ensuite dans Le problème du style, d'une théorie utile et heureusement mise en circulation, une théorie qui pose l'imitation comme principe même du lien social. Or, Tard, au même titre que Ribot d'ailleurs, distant, sans tout à fait le rompre et parler explicitement de convention, il distant le lien entre langage et sensation que tissait encore Taine. Et Gourmont paraît accepter cette conception, non sans avoir tenté une ultime distinction un peu acrobatique, susceptible de circonscrire encore les clichés qu'il faut bannir, tout en soustrayant la majorité des locuteurs à l'état pathologique supposé au début de l'article. Il y a donc deux classes de clichés, ceux qui représentent des images dont l'évolution entièrement achevée les a menées à l'abstraction pure, et ceux dont la marche vers l'état abstrait s'est arrêtée à moitié chemin, parce qu'il n'avait reçu à l'origine qu'un organisme inférieur et une forme médiocre, parce qu'il manquait d'énergie et de beauté. C'est pour cela qu'il faudrait réserver le mot « cliché », les autres seraient mieux nommés « images abstraites ». Par la suite, Gourmont convient toutefois que le jugement apporté sur l'image est avant tout de nature esthétique. Il y a des images qui sont belles, il y en a qui sont laides, il y en a de délicates et de vulgaires, il y en a que leur nouveauté ne sauve pas d'être ridicule. Ainsi, le critère du nouveau, dans ce que je viens de dire, il y en a que leur nouveauté ne sauve pas d'être ridicule, donc le critère du nouveau qui semblait tout à fait absolu dans les pages précédentes vacille lui aussi. Et cette remise en cause, avec cette remise en cause, c'est l'ensemble d'une pensée de la littérature qui touche à ses limites sous l'effet révélateur de la confrontation recherchée avec les sciences humaines. Ce sur quoi débouche cette philosophie du cliché, c'est finalement le constat qu'une lecture n'est possible que par la convention. Et avec ce constat, la question du cliché s'ouvre vers une réflexion plus générale sur le langage et la communication qu'il permet, vers une conclusion qui la dissout, qui dissout presque le problème, avant de reprendre ce problème du cliché et cette exclusion in extremis, puisque la fin de l'article renouvelle quand même la proscription attendue dans le domaine littéraire, un domaine dont la marginalité ainsi mise en lumière semble appeler à une reconsidération de la fonction. Proscrit de la littérature, le cliché a son emploi légitime dans tout le reste. C'est dire que son domaine est à peu près universel. Figurons-nous la même langue parlée dans l'univers entier, sauf dans la République d'Andorre. Voilà, c'est sûr. C'est là-dessus que s'arrête l'article. Gourmont a donc basculé de la stigmatisation d'une pathologie à une réflexion sur la conventionnalité nécessaire du langage. Alors, le héros de la République d'Andorre, parce qu'il est le modèle des symbolistes, est incontestablement Mallarmé, dont le style, pour Gourmont, se caractérise par une absence quasi totale de clichés. Mais pour cette raison même, il est obscur, privé de, je cite, ces petites phrases ou locutions ou mots accouplés que tout le monde comprend dans un sens abstrait. Dans le problème du style, Gourmont ira jusqu'à écrire, je cite, qu'une page sans clichés est une suite d'énigmes. Cela rebute l'esprit le plus curieux, l'Œdipe le plus patient. Et si dans ce cas le sphinx n'est pas nommé, il y a bien, pour Gourmont, un problème Mallarmé. C'est comme ça que je l'appellerais, un problème Mallarmé posé dès l'article sur le cliché et rappelé de loin en loin jusqu'au souvenir du symbolisme rassemblé en 1912. Alors le chapitre sur Mallarmé dans les souvenirs du symbolisme est l'occasion d'esquisser une perspective d'histoire littéraire sur la base des manières de mettre en œuvre l'analogie. On lui reprocha comme un crime l'obscurité de quelques-uns de ses vers. Donc on lui reprocha à Mallarmé comme un crime l'obscurité de quelques-uns de ses vers, sans tenir compte de toute la partie limpide de son œuvre et sans essayer de chercher comment la logique même de son esthétique symboliste l'avait amené à ne plus exprimer que le second terme de la comparaison. La poésie classique, si claire à cause de cela, mais si monotone, les exprime tous les deux. Victor Hugo et Flaubert les unissent en une seule métaphore complexe. Mallarmé les désunit à nouveau et ne laisse voir que la seconde image, celle qui a servi à éclairer et à poétiser la première. Ce sont là les étapes de ce renouvellement nécessaire des possibilités expressives de la langue auxquelles contribue, selon Gourmont, l'effort des poètes différemment à chaque époque. Avec Mallarmé, cependant, avec son esthétique de la suggestion et la technique d'effacement qui en serait le corollaire, une limite semble atteinte au-delà de laquelle la communication s'abîme. Il semble que toutes les choses de la vie ayant été dites mille et mille fois, il ne reste plus au poète qu'à les montrer du doigt en murmurant quelques mots pour accompagner son geste. Et c'est ce qu'a fait Mallarmé. Bien plus, il a l'air parfois de se parler à lui-même avec des paroles liées par une simple juxtaposition, en apparence illogique et sans ciment, et vraiment à ces moments-là, l'ellipse l'a enivré. Nous ne sommes plus capables, sans le secours de son commentaire, de renouer les bouts de fil cassés par les gestes de son rêve, et nous ne comprenons pas du tout, ou trop peu, et avec trop de mal. On retrouve dans l'hommage une réserve, une concession quant à l'accusation d'obscurité, qui ramène avec elle la réflexion sur le cliché, conclue par l'acceptation du banal et de l'espace qu'il dégage, pour la saisie de la nouveauté. Champollion a retrouvé la langue des hiéroglyphes grâce à une inscription bilingue. C'est avec cette seconde langue que nous déchiffrons les poètes quand ils ont l'art de la laisser transparaître sous la première. Mallarmé en a effacé toutes les traces et cela a rendu malaisée la tâche des déchiffreurs. Cette seconde langue, qui court sous la première, est faite de locutions connues et banales, de clichés immédiatement clairs et dont la clarté, bête mais indispensable, illumine les parties neuves du discours. Mallarmé a voulu écrire sans clichés. Autant vaudrait n'employer que des mots forgés à mesure. Son obscurité ne semble pas avoir d'autre mystère. Il y a été mené par un excès de délicatesse, un excès d'art. Son exemple, après avoir été suivi dans les premières années du symbolisme, est devenu assez vite une sévère leçon, et les poètes ont réappris à doser dans leurs vers le connu et l'inconnu. Il est bon peut-être d'avoir passé par cette école, d'avoir ressenti l'orgueil de l'obscurité spontanée du style, pour jouir pleinement des joies d'une clarté tempérée. Il ne faut pas qu'un style soit trop illuminé. La phrase toute faite, la locution convenue, n'y doivent tenir qu'une place strictement mesurée. Le génie de l'écriture est peut-être d'en connaître la proportion et de ne pas savoir qu'on la connaît. Le problème Mallarmé, donc ce problème dont l'œuvre de Mallarmé pourrait être l'emblème, est donc un problème de mesure et concerne la limite à donner à la densification des images originales. En l'occurrence, au-delà des premières années, ce symbolisme que Gourmont peut déjà regarder comme passé apparaît ainsi, pour ce qui est de l'image, comme un mallarmisme adouci, tempéré par le besoin d'être plus immédiatement compris. Or, considéré en fonction de la perspective historique tracée précédemment, ce compromis pourrait sembler trahir la perte de vitalité d'une formule que la nouvelle génération cherche en tout cas à dépasser. 1912, l'année où Gourmont publie en volume ses souvenirs du symbolisme, est également l'année où Georges Duhamel, âgé alors de 28 ans, se voit confier la chronique des poèmes dans le Mercure de France. C'est là une forme de promotion pour celui qui publie, au moment même où il signe ses premières chroniques dans le Mercure, un volume de propos critiques reprenant les articles qu'il avait fait paraître les années précédentes dans vers et prose. La voix critique de Duhamel prend ainsi du volume, défendant les amis, anciens membres ou anciens adhérents externes, comme on le disait, de l'abbaye de Créteil, comme René Arcos, Charles Vildrac ou Jules Romain, jugeant sévèrement les poètes qu'il trouve médiocres ou passéistes, proposant surtout une réflexion décidée sur la poésie et sur son action. Dans ce contexte, le jeune critique, dont le nom suit régulièrement celui de Gourmont au sommaire des numéros du Mercure de France, relance la question de l'image, une question qu'il réexamine en se réclamant plutôt de Claudel, dans la perspective d'une défense et illustration de ce qu'il nomme la connaissance poétique. Je cite, « Pour décrire ce qu'il connaît, pour faire acte de connaissance, le poète emploie les mots du patrimoine, ceux-là même dont se servent le commerçant, le cultivateur ou le pédagogue. Mais il ne les pèse pas avec la balance commune et il recourt, pour leur agencement, à des procédés qui n'appartiennent qu'à lui. » Ce qui l'amène à déclarer quelques lignes plus bas, « L'image ou métaphore est à coup sûr un des plus actifs instruments de la connaissance poétique. » Et l'on observe que, comme chez Gourmont, le premier exemple donné, l'exemple le plus probant, est extrait d'un poème de Mallarmé, en l'occurrence l'éventail de Mademoiselle Mallarmé, cité dans les premières pages de l'article. Par rapport à Gourmont, Duhamel détache cependant l'image de la sensation. Instrument de connaissance, l'image procède d'un travail de l'esprit, mais surtout elle requiert l'esprit, tant il est vrai que Duhamel l'envisage au moins autant en fonction de son effet que de son origine, de sa genèse. L'image est l'instrument d'une prospection révélant d'un coup ce qu'on ne soupçonnait pas. L'image, plus que la notation, donne à la poésie sa valeur annonciatrice. Elle rapproche parfois des éléments fort lointains et accoutume l'esprit à considérer d'un seul coup des idées dont le lien n'était point apparent. L'image est plus qu'un divertissement, plus qu'un jeu sensuel et brillant. Son destin est plus haut, et quand Jules Romain perçoit dans la nuit des couples noirs ayant la forme des clochers, il emplit son image d'un sens prophétique et livre encore plus à l'esprit qu'il ne confie au sens. Comme on le voit, Duhamel valorise du coup l'écart entre les éléments que l'image met en relation. Je le cite, « Complexe, celle-ci, donc l'image, rapproche, heurte et marie les objets et les actions et peut se dépouiller des artifices rhétoriques qui la légitiment d'ordinaire, en vue d'affronter plus brutalement ces éléments. » Repoussant les images d'autrui, les métaphores tombées dans le domaine public, comme il le dit ailleurs, le poète est celui qui dégage en barbare, c'est un terme qu'utilise volontiers Duhamel, un nouvel horizon. Et même s'il la nuance ensuite, Duhamel va proposer une formule promise à un grand avenir, en écrivant que, je cite, « Plus les idées ainsi combinées étaient lointaines à l'origine, plus l'effet de leur réunion sera saisissant. » Vous avez déjà reconnu sans doute une célèbre définition. On y reviendra. Avant de poursuivre dans cette direction, il est toutefois assez intéressant de faire un détour par la peinture, comme semble d'ailleurs y inviter la notion même d'image, comme celle du cliché d'ailleurs, qui est aussi un terme visuel. Car si les peintres ne peuvent reprendre telles quelles ces notions, ni celles d'image ni celles de cliché, sous peine d'introduire de fortes confusions, il est clair qu'il y a dans cette discussion impliquant la vision comme un appel à la confrontation des arts. Et à ce moment où la multiplication des images par la photographie, multiplication des clichés photographiques, amène le désir pour les artistes de créer une peinture lyrique, c'est-à-dire une peinture qui occuperait une position générique similaire à celle qu'occupe la poésie lyrique dans l'ordre des discours. Or, dans ce cadre, l'année 1912 apparaît aussi comme l'année de parution de Du Cubisme, ce premier essai de théorisation de la peinture cubiste proposé par Albert Gleizes et Jean Metzinger, soit des peintres dont il faut souligner la proximité avec les poètes néo-symbolistes et surtout unanimistes, si on me permet d'appliquer cette étiquette aussi aux écrivains de l'abbaye de Créteil. Metzinger ayant lui-même écrit un article de critique littéraire, ce qui est assez rare pour un peintre, sur son ami Alexandre Mercereau, un ancien de l'abbaye de Créteil, une abbaye dont Gleizes était un membre à part entière. Alors certes, Gleizes et Metzinger ne citent jamais explicitement Gourmont, mais c'est bien lui qu'on reconnaît lorsque les deux peintres, qui prétendent dépouiller les choses de leur apparence banale, confessent qu'il est néanmoins, je cite, « impossible d'écrire sans user de clichés et de peindre en faisant abstraction totale des signes connus ». C'est le problème Mallarmé qu'on trouve reformulé lorsqu'on lit « Si l'artiste n'a rien concédé aux communes mesures, son œuvre sera fatalement inintelligible à quiconque ne peut, comme d'un coup d'aile, se porter en des plans ignorés ». Au contraire, si, par impuissance ou manque de direction intellectuelle, le peintre demeure asservi aux formes en usage, son œuvre réjouira la foule. Son œuvre, l'œuvre de la foule, et contristera l'individu. Gleizes et Metzinger ne vont d'ailleurs pas apporter de réponse plus satisfaisante que celle de Gourmont à ce dilemme, laissant l'emploi des signes connus à l'appréciation de chaque artiste. S'il doit les disséminer par toute l'œuvre, les mêler intimement aux signes personnels ou les plaquer hardiment, dissonance magique, ces lambeaux du grand mensonge collectif sur un seul point du plan de réalité supérieur qu'il affecte à son art. Un vrai peintre tient compte de tous les éléments que l'expérience lui révèle, même s'ils sont neutres ou vulgaires. Affaire de tact. Alors, affaire de tact ici, affaire de génie pour Gourmont. Peinture et poésie sont égales sur ce plan, du moins tant que la peinture, et c'est le cas du cubisme, prétend médiatiser notre rapport à l'apparence des choses. Dans les deux cas, s'impose une limite au renouvellement, une entrave à la vie confinée de la République d'Andorre. Et c'est une véritable limite de la peinture que doit en revanche concéder Gino Severini, le peintre qui, peintre qui est aussi depuis 1913 le gendre du poète Paul Fort. Severini, dans un article intitulé « Symbolisme plastique et symbolisme littéraire » publié dans le Mercure de France en 1916, un article dans lequel il se propose de rendre compte, en le rapprochant des principes du symbolisme, de l'effort artistique, futuriste et cubiste, auquel il participe. Rappelons peut-être que Severini est un peintre qui a compris dès 1912 la portée des papiers collés de Braque et Picasso, et il a tenté dès ce moment-là des expérimentations de même nature, à côté de réalisations d'esprit plutôt futuriste. Voilà. Donc dans ce cas, dans le cas du texte de Severini, Gourmont est cité. On observe même que le symbolisme auquel se réfère le peintre est fondamentalement celui que lègue Gourmont. Severini reprend ainsi, afin d'y confronter les possibilités de la peinture, la façon dont les souvenirs du symbolisme exposaient la conception mallarméenne de l'image en regard de la conception classique et de celle de Flaubert ou Hugo. C'est la citation suivante, numéro 9. « Mallarmé par un maximum de sélection et de synthèse, qui est, comme dirait Émile Gourmont, la logique même de son esthétique symboliste, sépare ces deux termes de la comparaison. Il n'exprime que le second, celui qui a servi à éclairer et à poétiser le premier, et qui est une continuité qualitative du premier. Nous pouvons réaliser techniquement une esthétique correspondante dans les arts plastiques, et exprimer par une forme carrée et une couleur bleue une idée-sensation produite en nous par une réalité qui nous apparaît par une forme ronde et une couleur jaune. Mais les possibilités de notre réalisation plastique exigent les deux termes de la comparaison, le point de départ et le point d'arrivée de l'idée-sensation. L'unité de temps et d'espace étant définitivement détruite dans le tableau, celui-ci pourra donc renfermer des réalités n'appartenant ni au même milieu ambiant, ni au même instant de perception, ni à aucune logique visuelle. Ces réalités lointaines ou opposées seront reliées seulement par notre pensée et par notre sensibilité. Ce que Severini relève, c'est donc l'impossibilité d'une véritable fusion métaphorique dans un art dont les signes sont forcément complexes, toujours de l'ordre de la phrase. Une impossibilité que Gourmont avait d'ailleurs signalée dans le problème du style, lorsqu'il écrivait, je cite, « les images, en l'occurrence les images poétiques, là, l'exemple était Flaubert à ce moment-là, les images ne peuvent être traduites en peinture, art direct et en somme géométrique, que lorsqu'elles ne sont pas des métaphores. » Et à partir de là, c'est la nécessité, si l'on souhaite multiplier les contextes simultanés et rapprocher de manière inattendue des réalités lointaines, nécessité de procéder par juxtaposition, c'est-à-dire finalement par coupure et par collage. Toutefois, en se plaçant en quelque sorte sous l'autorité de la littérature, Severini paraît n'accepter qu'à regret les contraintes liées à son art. Il donne l'impression d'envisager la peinture non seulement comme en retard par rapport à la poésie, et il le note explicitement, mais aussi comme en déficit. Dès 1912, des poètes, avec Picasso, Braque, puis d'autres peintres, dont Severini lui-même, ont pourtant vu dans cette contrainte de la présence simultanée une chance de sortir de l'impasse que synthétise ou que j'essaye de synthétiser par ce problème Mallarmé soulevé par Gourmont. Ils ont vu dans la discontinuité et dans la possibilité de confier au lecteur, pour les poètes, ou au spectateur, pour les peintres, la mise en relation définitive d'éléments présentés sur une surface reconnue comme telle. C'est bien ce qu'avançait Severini lorsqu'il parle de réalité lointaine, reliée seulement par notre pensée et par notre sensibilité. Une manière de régler cette question de la place à accorder à la phrase toute faite, on peut la reprendre telle qu'elle, ce qui compte, ce sera l'ordre dans lequel on redonne les choses. Donc place à accorder à la phrase toute faite, ou au signe connu, comme disaient Gleize et Metzinger. Alors, grand lecteur revendiqué de Gourmont, Blaise Cendrars va ainsi revenir sur l'image. Non pas dans une réflexion théorique indépendante, il n'en propose pas, mais en intégrant par deux fois cette question dans ses poèmes. Dans la prose du Transsibérien, d'une part, la nouvelle géométrie que dessine la voie ferrée entraîne une dérive énumérative qui, à partir d'Archimède et de Syracuse, convoque les soldats, les galères et les engins incendiaires pour s'élargir à toute l'Éthurie et à l'histoire où le récent naufrage du Titanic répond à la destruction des vaisseaux antiques. Avant que le poète ne se retourne sur lui-même et sur son art pour constater, autant d'images d'associations que je ne peux pas développer dans mes vers. Car je suis encore fort mauvais poète, car l'univers me déborde, car j'ai négligé de m'assurer contre les accidents de chemin de fer, car je ne sais pas aller jusqu'au bout, et j'ai peur. Dans Titre, d'autre part, un poème publié dans le numéro de juillet-août 1914 des Soirées de Paris, avant de compter au nombre des 19 poèmes élastiques, l'image que la prose du Transsibérien transformait sous la pression d'un univers réclamant à se manifester d'un coup, se voit simplement récusé devant l'immédiateté de la manchette du journal. Je cite, vous l'avez aussi, « Forme, sueur, chevelure, le bon d'être dépouillé. Premier poème sans métaphore, sans image, nouvelle, quand le journal fermente comme un éclair claquemuré, manchette. » Et cela, une façon d'aller jusqu'au bout, ce dont se plaignait Cendrars dans la prose du Transsibérien, une façon de renoncer définitivement au développement, une façon qui reviendrait en fait à assumer pleinement l'image association. Car celle-ci n'est déjà plus tout à fait l'image, du moins si, comme il semble apparaître dans le titre, l'image est identifiée à la métaphore. Ici, dans la poésie de Cendrars, l'association n'est plus figure. Elle ne se cristallise pas dans la phrase, mais résulte d'une simple juxtaposition d'éléments quelquefois lointains. Alors, quant à Guillaume Apollinaire, c'est sans doute parce qu'il envisage lui aussi une poésie sans image, du moins sans image conçue comme métaphore, qu'il n'aborde jamais publiquement la question. La chose n'apparaît jamais de manière assez étonnante, finalement, chez Apollinaire. Une lettre de juillet 1915 à Madeleine paraît d'ailleurs le confirmer, qui présente Claudel comme, je cite, « l'aboutissement du symbolisme et comme un homme de talent n'ayant pas eu le courage de se dépasser et surtout de dépasser une littérature d'image devenue trop facile ». Puis le poète précise, vous avez la citation, « on s'est habitué aux images, il n'en est plus d'inacceptable et tout peut être symbolisé par tout ». Une littérature faite d'images enchaînées, comme grains de chapelet, est bonne tout au plus pour les snobs férus de mysticité. Associée à l'héritage symboliste, l'image semble ainsi conçue avant tout comme métaphore, et plus largement comme moyen d'une approche indirecte, voilant les choses d'un halo de mystère propice à l'investissement métaphysique, voire mystique. Alors qu'Apollinaire tente, lui, de réinscrire, comme il le dit, la poésie au centre de la vie. Dès lors, l'image n'est pas à redéfinir, mais simplement à écarter au profit d'une mise en relation directe. Il y aura néanmoins redéfinition de l'image dans ce sens-là, et cette redéfinition, c'est Pierre Reverdy qui va la proposer dans sa revue Nord-Sud, au fil d'articles théoriques qui, à partir d'un premier article sur le cubisme, en passant par un essai d'esthétique littéraire, lequel cite d'ailleurs Gourmont en exergue, c'est suffisamment rare pour être mentionné, parce que Reverdy ne cite jamais personne, donc Gourmont est cité en exergue, même si c'est un Gourmont un peu ancien, c'est le Gourmont de l'art libre et l'esthétique individuelle. Donc ce parcours en différents articles mène finalement à l'article de mars 1918 sur l'image, cet article dont, vous le savez, Breton reprendra le début dans le manifeste du surréalisme. Je le cite, « L'image est une création pure de l'esprit. Elle ne peut naître d'une comparaison, mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l'image sera forte, plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique. » Alors cette mise au point, elle est en fait, comme l'a bien montré Étienne Alain Hubert, elle est en fait sollicitée par Breton lui-même à l'époque, sollicitée comme une réponse aux propositions de Duhamel parues entre 1912 et 1914. Mais on voit que la proposition de Reverdy, d'une certaine manière, amende par avance le manifeste du surréalisme de 1924, lorsque celui-ci prône la gratuité, voire l'absurdité immédiate. C'est ce qu'on trouve chez Breton, alors que Reverdy parle, lui, de justesse de l'image. Car l'importance et la nouveauté de la théorie de Reverdy ne réside pas tellement, à mon avis, dans la promotion de l'écart entre les deux termes, même si c'est ce qu'on a retenu, justement, en raison de la récupération surréaliste. Une promotion de l'écart qui s'avère finalement le point de convergence des réflexions d'avant-guerre, celle de Duhamel, on l'avait vu, mais aussi par exemple celle de Marinetti dans les différents manifestes du futurisme. L'importance et la nouveauté de cette théorie résident plutôt dans cette possibilité de concevoir l'émergence d'une réalité neuve hors de la phrase et donc hors de la figure, hors de la syntagmatique linguistique, dans laquelle s'inscrirait la métaphore. Duhamel, et Breton aussi, malgré une conception plus visuelle, pense en effet l'image dans la continuité de la phrase, avec des mots chargés à la fois de provoquer la rupture ou le choc par leur divergence, mais aussi de permettre en même temps, par leur convergence, une convergence qu'on va trouver, une refonte des contextes. Il l'envisage donc comme métaphore, l'image ou métaphore, écrivait Duhamel dans l'exemple que je vous avais cité, tandis que Reverdy en reste simplement au principe de l'analogie entre éléments visiblement disjoints. Alors la spatialisation, dont sont l'objet les poèmes contemporains de cette élaboration théorique, les poèmes des Ardoises du Toit, par exemple, ici, montre bien qu'à partir des réalisations de la peinture cubiste et surtout des expérimentations poétiques d'Apollinaire, Reverdy conçoit une organisation de l'œuvre en deux niveaux distincts. D'une part, celui qu'on dira le niveau de l'élément, coupé dans le tissu des représentations existantes ou possibles, c'est-à-dire un niveau dans lequel peut se retrouver le cliché, la phrase banale, qui peut même admettre la métaphore aussi, trouve évidemment des métaphores dans la poésie reverdienne, mais elles ne sont généralement pas d'une originalité confondante, parce que ce n'est pas là que ça se joue. D'autre part, le niveau de l'ensemble, composé selon une logique propre, originale, et offert au parcours interrogateur du regard, qui permet de revenir, de reprendre les associations. Deux niveaux qui réclament du lecteur une lecture qu'il est possible de penser selon un double mouvement, celui de la reconnaissance, d'une part, au niveau de l'élément, et donc reconnaissance du commun, et celui de la mise en relation dans l'espace présent du poème ou du tableau, pour ce qui est de la peinture. Si Duhamel, comme Gourmont avant lui, envisage le rapprochement sous la forme de la métaphore, c'est qu'il donne encore à l'image une valeur mémorielle et la pense en termes de transmission. La redéfinition de Reverdy en fait un pur rapport, irréductible, n'advenant pour cette raison que par et pour l'esprit seul, comme l'écrit le poète, l'esprit conçu comme un mélange d'intelligence et de sensibilité. L'image n'est donc pas à proprement parler un aspect de l'œuvre, mais une possibilité qu'elle ouvre pour le travail d'appropriation du lecteur. Virtuelle, elle est nouvelle à chaque fois dans le présent de la lecture. Comme est individuelle l'émotion qu'elle est susceptible d'éveiller. Voilà. Alors, dans l'introduction de son édition récente au problème du style, Emmanuel Caës souligne très justement chez Gourmont une forme de déni du temps. Déni du temps, je cite Emmanuel Caës, déni du temps que matérialise la phrase, à la fois dans son organisation syntaxique et dans sa scansion, auquel il préfère l'instantané de l'image. Une image qui devrait, en fin de compte, ramener à la sensation. Au-delà, ce déni du temps explique aussi, selon Emmanuel Caës, le fait que la pensée de Gourmont soit restée imperméable au bergsonisme. Or, pour comprendre la postérité moderniste de Gourmont et l'évolution des conceptions de l'image poétique jusqu'à Reverdy, ce que j'ai essayé de vous présenter là, il semble important de prendre en compte ce bergsonisme, à envisager ici d'une manière large qui dépasse Bergson seul, je dirais, car c'est bien à la fois la reconnaissance de la nécessité sociale de la convention et la prise en considération de la temporalité qui explique le déplacement de l'inquiétude du cliché vers ce que j'appellerais l'automatisme, entendu simplement ici comme la forme la plus forte de l'habitude, et qui explique aussi le déplacement corollaire de l'attention du matériau même, l'image chez Gourmont, vers ce que Reverdy appelle la succession logique. L'automatisme, qui concerne donc une suite, un enchaînement de pensées ou d'actions, est en effet, rappelons-le, à l'horizon des réflexions sur les médiations sémiotiques et partant sur la dimension sociale des fonctionnements psychologiques qu'on trouve aussi bien chez Nietzsche, même si son perspectivisme est moins temporel, me semble-t-il, mais en tout cas chez Tarde, James ou Bergson. C'est pour ça que je parlais d'un bergsonisme pluriel à ce moment-là. Chez Bergson, notamment dans Le Rire, où le comique est présenté comme un moyen de déjouer, je cite, « l'automatisme facile des habitudes contractées ». Un automatisme à la fois nécessaire parce qu'il facilite l'action et dangereux parce qu'il désindividualise. C'est d'ailleurs aussi dans cette ambivalence qu'il finit par apparaître, donc que l'automatisme finit par apparaître dans le petit article que Gourmont lui consacre en 1908 au gré d'une promenade philosophique. Mais Gourmont ne tire de ses réflexions sur l'automatisme aucune conséquence pour sa pensée de la littérature. En raison principalement de ce déni du temps dont parle Emmanuel Caës, Gourmont s'arrête ainsi dans ses considérations psychologico-littéraires au seuil d'une dissolution du cliché dans le flux automatisé des représentations conventionnelles. Il ne peut évidemment en aller de même pour la génération dont l'affirmation artistique coïncide avec ce moment où, comme l'écrit François Azouvi dans la gloire de Bergson, le bergsonisme a coloré toute la culture. Et cette génération, imprégnée d'une psychologie, qu'il faut dire bergsonienne pour résumer, propose des réponses qu'on a vues différentes, des réponses qui peuvent d'ailleurs, et il faut le souligner, c'est pas parce qu'on parle de la psychologie de Bergson qu'il faut tout englober, des réponses qui peuvent d'ailleurs n'avoir rien à faire avec la métaphysique de Bergson, ni avec la fonction que celui-ci assigne à l'art. Et c'est assurément le cas pour les œuvres de Picasso, de Braque, d'Apollinaire, Sandrart ou Reverdy. Le choix d'une composition discontinue, qui laisse voir pour l'impliquer le plan de la page ou du tableau, apparaît en tout cas comme une manière d'arrêter l'écoulement d'une conscience qui est d'abord lectrice, et qui l'est suivant les médiations sémiotiques acquises, apprises, forcément. C'est donc une manière non pas d'éviter, mais de remettre en jeu la phrase toute faite, la représentation existante ou possible, pour la donner à lire ou à relire dans un ensemble de rapports qui échappent à l'ordre attendu. L'obsession du cliché ou du lieu commun tend donc à disparaître. On retrouve même le ciel étoilé dans cette poésie, comme vous le voyez tout à la fin du poème « Rive de Reverdy ». On retrouve le ciel étoilé, et Paulhan, qu'on retrouve aussi, Paulhan, parce qu'il a intégré la leçon du cubisme, publie en 1918 dans la revue Nord-Sud, où Reverdy vient de proposer sa réflexion sur l'image, il publie un article au titre explicite, je cite « le reproche que l'on fait au lieu commun ne tient pas debout, et ce qui s'ensuit. Et il se pourrait bien que Gourmont, le grand inquisiteur, ait permis qu'on en arrive là. Voilà. Je vous remercie.